Anne Verdaguet présente le journal d'Haïti et des Amériques. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur ces révélations du New York Times. Le président américain n'aurait pas ou peu payé d'impôts ces 20 dernières années. Le quotidien s'explique sur les raisons qui l'ont poussé à faire ces révélations. On y revient dans un instant. On reviendra aussi sur les déclarations du candidat républicain qui dit qu'il ne reconnaîtra pas sa défaite s'il est en effet battu le 3 novembre prochain face à Joe Biden. Avec notre invité Maude Michaud, doctorante en droit public, le président américain a-t-il le pouvoir de remettre en question les résultats de cette élection? Stéphanie Fuller nous parlera aussi de ces manifestations au Venezuela contre les pénuries de carburant. Manifestations non pas dans les grandes villes, mais plutôt en région. On va donc revenir tout d'abord sur ces révélations explosives sur les impôts de Donald Trump. La source provient du très sérieux New York Times qui a enquêté sur les déclarations de revenus du président sur plus de 20 ans. Déclarations fiscales qu'il a toujours refusé de rendre publiques. Le président n'aurait que très peu ou en tout cas pas payé d'impôts du tout durant cette période. Des révélations qui interviennent à un moment crucial de la campagne, à la veille d'un premier débat public entre le candidat républicain et son rival démocrate Joe Biden. À New York, Loubna Anaki.
Un homme d'affaires milliardaire, des entreprises à succès, pour le New York Times, l'image affichée par Donald Trump serait en fait bien loin de la vérité. Le quotidien dit avoir eu accès aux déclarations d'impôts de l'ex-mania de l'immobilier sur 20 ans et assure que sur la centaine de sociétés détenues par le président, plusieurs seraient en difficulté. Chaque année, Donald Trump aurait déclaré plus de pertes que de gains. C'est ainsi qu'il n'aurait payé que $750 en 2016 et $750 en 2017. Et avant son arrivée à la Maison-Blanche, il n'aurait tout simplement rien payé du tout durant 10 ans. Des informations rejetées en bloc par le président.
Bien sûr, j'ai beaucoup payé. Et j'ai payé beaucoup d'impôts sur le revenu au niveau de l'État aussi. L'État de New York taxe beaucoup. Tout ça, ce sont de fausses informations. Le New York Times essaie juste de créer une histoire. Ils essaient tout.
Depuis son élection, Donald Trump refuse de rendre publiques ses déclarations d'impôts, contrairement à tous les présidents avant lui depuis 1970. L'affaire est d'ailleurs au cœur d'une bataille juridique depuis plus de 3 ans. Le New York Times assure qu'il publiera d'autres détails sur les finances du président dans les jours à venir. Loubna Anaki, New York, RFI.
Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La revue de presse des Amériques avec vous et dans un éditorial, le rédacteur en chef du New York Times explique ce matin les raisons qui l'ont poussé à publier ces informations explosives sur la situation fiscale de Donald Trump.
Oui, nous publions ce rapport parce que nous pensons que les citoyens devraient savoir autant que possible sur leurs dirigeants, écrit Dean Baikett qui poursuit. Depuis les années 1970, chaque président a rendu public ses déclarations d'impôts, une tradition qui garantit en principe qu'un élu qui a de l'influence sur les marchés et le pouvoir de changer de politique fiscale ne cherche pas à en bénéficier financièrement. Monsieur Trump, l'un des présidents les plus riches de l'histoire du pays, a rompu avec cette pratique. Nos dernières découvertes souligne justement que les entreprises de M. Trump semblent avoir bénéficié de sa fonction présidentielle et qu'il y a eu des conflits potentiels entre ses propres intérêts financiers et les intérêts diplomatiques de la nation.
Alors les révélations du New York Times font bien sûr couler beaucoup d'encre dans les autres journaux américains aussi, Stéphanie.
Puisqu'elle jette un doute sur l'image autoconçue du président en tant que promoteur immobilier de haut vol avec des millions en banque, souligne le Los Angeles Times. Pour le site internet de la chaîne CNN, l'article du New York Times montre Donald Trump en empereur sans habit, en référence au célèbre conte de Hans Christian Andersen. C'est l'image dévastatrice d'un président qui saigne financièrement et qui dépend de sa présidence pour se maintenir à flot, estime l'éditorialiste.
Alors en pleine campagne électorale, le camp démocrate n'a pas tardé à réagir.
Oui, après l'article explosif du New York Times, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a accusé le président d'avoir profité personnellement du droit fiscal en vigueur pour les entreprises, au lieu d'améliorer la situation des Américains lambda qui travaillent dur, rapporte The Hill. Le House Committee on Ways and Means, le principal comité en charge des déclarations fiscales de la Chambre des représentants, qui se bat depuis des années pour obtenir les déclarations de revenus de Donald Trump, a déclaré dans un communiqué que le président a utilisé les lois fiscales à son avantage et qu'il a engagé les batailles juridiques pour retarder ou éviter tout court de payer ce qu'il doit. C'est incroyable et dégoûtant, a estimé de son côté la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, citée par The Hill.
Alors quel sera l'impact de ces révélations, Stéphanie, sur l'élection présidentielle ?
Eh bien, la plupart des commentateurs en s'accordent pour dire que malgré l'importance des informations publiées par le New York Times, celles-ci n'auront probablement que très peu d'influence sur les électeurs qui s'apprêtent à voter pour le président sortant. Enfermés dans leur bulle de la chaîne Fox News, les partisans de Donald Trump ont été conditionnés pour croire que le New York Times est le bras médiatique de la machine électorale démocrate, souligne CNN.
Direction le Venezuela maintenant, Stéphanie, où des manifestations importantes ont eu lieu ces derniers jours dans plusieurs villes à travers le pays.
Oui, au milieu de l'inertie qui s'était installée depuis plusieurs mois au Venezuela, cette mobilisation a de quoi surprendre, estime ce matin le quotidien El País. Les conditions de vie empirent et le mécontentement finit par déborder, même en plein milieu d'une pandémie. Il est d'ailleurs intéressant de constater que ces manifestations n'ont pas été initiées par le leader de l'opposition, Juan Guaido, qui peine aujourd'hui à convaincre les Vénézuéliens, tant sa stratégie n'a pas donné de résultats. Non, c'est une convocation de l'alternative révolutionnaire populaire, sigle sous lequel se regroupent des partis de gauche déçus du chavisme, qui a allumé la mèche, rapporte El País.
Et cette fois, le gros des manifestations ne se déroule pas dans la capitale Caracas, qui est habituellement l'épicentre de la contestation.
Oui, tout à fait, Anne. Ce sont au contraire les régions vénézuéliennes qui se rebellent, souligne El Espectador. Que ce soit dans l'état de Yaracuy, dans ceux d'Amazonas, de Táchira, Guárico, Nueva Esparta ou encore dans l'état de Bolívar, partout les Vénézuéliens descendent dans la rue depuis jeudi dernier. Ils dénoncent avant tout le manque de carburant, une pénurie qui pourrait s'avérer être celle de trop dans ce pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole du monde. Le journal Tal Cual rapporte aujourd'hui que les automobiles les automobilistes doivent patienter jusqu'à une semaine dans d'interminables files d'attente devant les stations-service qui sont gardées par les militaires. Et même les usagers considérés comme prioritaires, comme des médecins par exemple, n'arrivent plus à faire le plein. Dans beaucoup de villes, il n'y a plus une goutte d'essence, et ceci depuis des semaines parfois.
Et comment réagit le régime de Nicolas Maduro face à ces manifestations ?
Eh bien, par la répression, les organisations vénézuéliennes des droits de l'homme dénoncent des dizaines d'arrestations arbitraires en trois jours de mobilisation, rapporte le quotidien argentin Clarín. Quant à Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale et qui a été reconnu, comme vous le savez, par une cinquantaine de pays comme président du Venezuela, eh bien, il a appelé hier à de nouvelles manifestations dans les prochains jours, écrit ce matin El Nacional.
Merci beaucoup Stéphanie Schuller pour cette revue de presse des Amériques. Notre invité à présent, Maude Michaud, doctorante en droit public à l'université Panthéon-Assas. Bonjour.
Bonjour.
On va revenir avec vous sur les incertitudes qui semblent entourer le scrutin présidentiel du 3 novembre prochain aux États-Unis. Donald Trump ne cesse de présenter le vote par correspondance comme frauduleux. Il dit aussi à plusieurs reprises qu'il refusera de transmettre le pouvoir pacifiquement s'il était perdant. Alors Maude Michaud, quels sont les différents scénarios possibles au soir du 3 novembre ?
Alors, je pense que la première chose à rappeler, c'est que le président des États-Unis est élu par un collège de grands électeurs qui sont eux-mêmes élus par le corps électoral au sein de chaque État. Donc, le 3 novembre a lieu l'élection de ces 538 grands électeurs. À partir de là, il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est qu'on a un vainqueur clair au soir du 3 novembre. L'un des deux candidats obtient une majorité absolue de 270 mandats ou plus de grands électeurs. Le second scénario, on ne sait pas le soir du 3 novembre qui est le vainqueur de l'élection. C'est un scénario qui est extrêmement probable pour deux raisons. La première, c'est l'importance prise par le vote par correspondance lors de cette élection et le fait que les votes par correspondance vont continuer à arriver et à être dépouillés après le 3 novembre. Et la seconde raison, c'est le caractère déjà très contesté de l'élection et donc il faudra probablement attendre que les autorités compétentes se soient prononcées pour avoir les résultats définitifs.
Et donc, si aucun des deux candidats ne revendique cette victoire au soir du 3 novembre, quelles sont les possibilités pour ces candidats de contester ce vote ?
Ce qu'il veut voir, c'est que ce que vont contester les candidats, ce sont les résultats dans un ou plusieurs États, pas le résultat général de l'élection au niveau fédéral. Mais évidemment, s'il s'agit d'un swing state ou d'un État qui nomme un nombre important de grands électeurs, cela peut être tout à fait déterminant. Donc, une loi qui date de 1887 précise que ce sont les États d'abord, puis le Congrès fédéral qui sont compétents pour statuer sur les contestations qui s'élèveraient lors du décompte des résultats. Donc, première possibilité pour un candidat qui voudrait contester le résultat du scrutin dans un État, c'est de suivre les procédures prévues par le droit de cet État. Et cela passera généralement par un recours juridictionnel, donc devant les cours de l'État.
Et donc, ce serait un recomptage des voix. Oui, pardon, je vous ai coupé, Maud Michaud.
Là, ça serait un recours juridictionnel plutôt pour contester le scrutin et éventuellement le nombre auquel on est parvenu. Deuxième possibilité, le candidat va pouvoir essayer d'obtenir que la législature de l'État remplace les grands électeurs élus par d'autres qu'elle a elle-même choisi, en affirmant par exemple que le scrutin a été entaché de fraude et qu'il n'est pas représentatif de la volonté populaire. Donc sur cette possibilité, c'est vrai que les limites constitutionnelles de ce pouvoir de la législature ne sont pas très nettes, et ça dépend évidemment de la configuration politique de l'État, mais du point de vue d'un candidat, cela pourrait être, et de Donald Trump en particulier, cela pourrait être éventuellement quelque chose à tenter.
Qui pourrait intervenir finalement pour départager les deux candidats? Est-ce que ce serait en dernier lieu le Congrès, la Cour suprême? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors c'est intéressant parce que la loi donc de 1887 prévoit que ce sont d'abord les États et ensuite le Congrès fédéral qui sont compétents pour régler les contestations. Elle ne parle pas du tout des cours fédérales et donc elle ne parle pas non plus de la Cour suprême des États-Unis. Donc il y a effectivement une procédure qui est prévue par cette loi et qui permet au Congrès fédéral d'exclure les votes d'un État. Le cas échéant, il le déciderait le 6 janvier, à la date à laquelle les votes des grands électeurs sont comptés devant les deux chambres du Congrès. Maintenant, aux États-Unis, les cours fédérales jouent évidemment un très grand rôle et sont susceptibles d'être saisies à partir du moment où il y a une question de droit fédéral qui se pose. Et tous les Américains ont en tête le précédent du 7 novembre 2000, donc l'élection présidentielle qui opposait George Bush et Al Gore, et le rôle qui avait joué la Cour suprême fédérale. À l'époque, étaient contestés les résultats du scrutin en Floride, et la Cour suprême de Floride avait ordonné un recomptage manuel de certains bulletins. La Cour suprême fédérale, cette fois, avait été saisie par George Bush et avait estimé que ce recomptage manuel était inconstitutionnel. Elle avait alors annulé l'arrêt de la Cour suprême de Floride, ce qui équivalait en pratique à désigner George Bush vainqueur de l'élection.
Et d'où l'aspect crucial hein, du processus qui se déroule en ce moment, Maud Michaud, à la Cour suprême pour le remplacement de Ruth Bader Ginsburg. Hein, Donald Trump a proposé une juge conservatrice, Amy Coney Barrett. Quel sera l'impact de cette décision, selon vous, sur le résultat du scrutin et est-ce que cela peut faire basculer cette élection ?
Donc effectivement, samedi dernier, Donald Trump a désigné Amy Coney Barrett, mais il faut encore qu'elle soit confirmée par le Sénat. Il y a cependant assez peu de doutes qu'elle le sera. Cela renforcerait considérablement la majorité conservatrice à la Cour suprême, puisqu'il y aurait 6 juges conservateurs contre 3 juges libéraux. Et effectivement, dans l'hypothèse où le contentieux remonterait jusqu'à la Cour suprême, c'est susceptible d'avoir une influence sur le résultat de l'élection.
Maud Michaud, est-ce qu'il y a eu déjà un précédent dans l'histoire américaine où la Cour suprême, vous parliez de Bush-Al Gore, mais où cette Cour suprême a dû intervenir pour départager deux candidats?
Sur l'intervention de la Cour suprême, c'est la seule hypothèse, mais il y a eu à la fin du 19e siècle, donc en 1876, une élection qui a été, qui est encore à ce jour la plus problématique et la plus contestée de l'histoire américaine. Donc on était 10 ans après la fin de la guerre de sécession et le scrutin avait été entaché de fraude et de menaces de violence à l'encontre des électeurs républicains en particulier. Et surtout, le problème qui se posait, c'était qu'à l'issue de l'élection, on avait 20 mandats deux grands électeurs qui étaient simultanément revendiqués par les républicains et les démocrates. Donc on ne savait pas qui avait emporté l'élection. Le Congrès a essayé de mettre en place une commission électorale qui était composée pour partie de juges à la Cour suprême, mais pas seulement. Mais en réalité, la controverse a été résolue par un compromis informel entre les deux parties, ce qu'on a appelé le compromis de 1877. Les termes de ce compromis étaient les suivants. Le candidat républicain était déclaré vainqueur, mais en échange, les républicains acceptaient de retirer les troupes fédérales des États du Sud des États-Unis.
Voilà un contexte donc bien différent de celui d'aujourd'hui, on le comprend bien. Merci Maude Michaud pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes doctorante en droit public à l'université Panthéon-Assas. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première, présenté par Julie Straboni. Bonjour Julie.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, depuis hier dimanche, les bars et restaurants sont fermés en Guadeloupe.
C'est une des mesures adoptées par le gouvernement pour tenter de juguler la circulation de la Covid-19 et avec elle, un accès limité aux plages et aux rivières qui semblent bien perçues. Alexandre Houda s'est rendu sur la plage du Souffleur à Port-Louis hier.
Si la météo d'hier pouvait être une des raisons à la faible affluence sur cette plage du Souffleur à Port-Louis, les nouvelles restrictions préfectorales semblent avoir déjà fait leur petit effet. L'interdiction de se rendre sur les plages, plans d'eau et aires de pique-nique entre 11h30 et 14h30, mais aussi de 19h à 5h du matin, ne semble pas déranger les baigneurs que nous avons croisés.
On s'est dit que le virus ne part pas entre midi et deux.
Non, on se plie, on peut faire autre chose, hein. Il y a d'autres alternatives. Pour ceux qui vivent ici, donc c'est qu'un passage pendant quelques jours, hein. C'est 15 jours de privation, mais entre guillemets. Ce qui me chagrine, c'est que ça va affecter économiquement beaucoup l'île.
Et justement, ceux qui seront le plus impactés par ces restrictions sont les entreprises proposant des activités nautiques, mais aussi et surtout les restaurants de plage.
Du coup, ça va nous pénaliser, puisque si à 11h les gens doivent quitter la plage, je vois pas pour qui on va pouvoir faire de la vente à emporter. Mais bon, ce sera 15 jours encore très difficiles. On a fait 3 mois, donc ce sera 15 jours encore difficiles. On va devoir gérer, qu'on va devoir assumer, puisqu'on n'est pas seul, il y a du personnel, donc il va falloir s'organiser.
Hier, il y a la gendarmerie qui est passée, qui nous a dit aujourd'hui, vous pouvez travailler, mais à partir de lundi, 11h30, personne sur la plage, ni commerçants, ni touristes, personne.
Des gendarmes que nous avons pu apercevoir 15 minutes avant leur désigné pour quitter la plage. Une patrouille qui a fait le choix de la prévention pour le moment.
La pollution au chlordécone à la Martinique. Le comité de pilotage a fait le point pour réduire la présence du pesticide. Et le nouveau président du parc naturel, Denis-Louis Régis, veut aller plus loin encore que le label zéro chlordécone.
C'est vrai que dans le passé, on n'a jamais appris dans le cadre de la formation à nos agriculteurs à se passer des pesticides. Au contraire, on leur a appris à doser, comment les utiliser. Aujourd'hui, il y a une cocotte minute qui risque d'exploser dans le pays. Vous voyez ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle les activistes qui sont en mouvement en ce moment. Et je crois que c'est une réponse que nous apportons non seulement à la population, mais à la profession aussi. Parce que ceux qui sont concernés par cet empoisonnement, ce ne sont pas uniquement les consommateurs, mais également les agriculteurs qui utilisent ces produits. Et nous disons qu'avec eux, nous allons nous asseoir, nous allons prendre le temps qu'il faut pour apporter la pédagogie, pour qu'ils puissent comprendre que dans l'intérêt de la santé des Martiniquais, il nous faut progressivement aller vers le zéro résidu de pesticides. Nous avons 10 ans pour le faire, c'est ce qu'a annoncé le président de la République. Il y a également le ministre de l'Outre-mer qui a annoncé 80 millions. Nous n'allons pas rester les bras croisés.
Denis-Louis Régis, le président du parc naturel de la Martinique, répondait à Muriel Tozier. À demain pour d'autres nouvelles de l'Outre-mer.
À demain, merci à vous Julie Straboni. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Restez avec nous dans quelques instants. Votre émission sur la francophonie avec Pascal Paradou.
RFI, la sélection du mois. Protoji. Charlie Couture.
C'est les frontières en marche en la nuit. Parti de là-bas, il était venu ici. Il avait pas une chance, c'était ça ou rien. Y'a les gars qui ont pas de chance,
on est trop loin.